Il est en toute chose un rythme qui participe de notre univers. Symétrie, grâce, élégance. Vous retrouvez toutes ces qualités dans celles que saisit le véritable artiste. Vous pouvez retrouver ce rythme dans la succession des saisons, dans le cheminement du sable sur une corniche, dans les branches d'un buisson créosote ou le dessin de ses feuilles. Dans notre société, dans nos vies, nous avons essayé de copier ces formes, de chercher les rythmes, les danses qui réconfortent. Pourtant, il est possible de discerner un péril dans la découverte de la perfection ultime. Il est clair que le schéma ultime contient sa propre fixité. Dans cette perfection, toute chose s'en va vers sa mort. Extrait de L'Édit de Muad'Dib par la princesse Irulan. Paul Muad'Dib se souvenait d'un repas lourdement chargé en épices. Dans sa mémoire, c'était comme un point d'ancrage. Depuis cette position, il pouvait considérer le moment présent comme un rêve. « Je suis comme un théâtre ouvert au processus », se dit-il. « Je suis la proie d'une vision imparfaite, de la conscience raciale et de son but terrible. » Pourtant, il ne pouvait échapper à la crainte de s'être dépassé de quelque manière, d'avoir perdu sa position dans le temps. Le passé, le présent et l'avenir étaient maintenant confusément mêlés. C'était comme une sorte de fatigue visuelle qui provenait, il le savait, de la nécessité constante de maintenir l'avenir prescient sous la forme d'une sorte de mémoire qui était une chose appartenant intrinsèquement au passé. Shiny m'a préparé le repas, songea-t-il. Pourtant, Shiny était loin dans le sud, dans le pays froid où le soleil était chaud, dans l'un des nouveaux Siege Bastions, en sûreté avec leur fils, Leto II. Ou bien était-ce là une chose qui devrait se produire un jour? Non, se dit-il. Car Alia l'étrange, sa sœur, était également là-bas avec sa mère et Shiny. Elles avaient fait ce voyage de 20 marteleurs vers le sud à bord d'un palanquin de révérende mère, sur le dos d'un faiseur sauvage. Il chassa la pensée du ver géant et se demanda « Ou bien Alia n'est-elle pas encore née ?»« J'étais en Razia, » se souvint-il. « Nous étions allés récupérer l'eau de nos morts dans Arrakeen. Et j'ai découvert les restes de mon père dans le bûcher funéraire. J'ai placé le crâne de mon père sous un tas de rochers, au-dessus de la passe de Harg. Ou bien n'était-ce pas encore arrivé ?» Mes blessures sont réelles, mes cicatrices aussi, et le mausolée du crâne de mon père aussi. Comme en un rêve, toujours, il se souvint que Hara, la femme de Jemis, était venue lui dire que l'on se battait dans le couloir du siège. Il s'agissait du premier siège, où il s'était trouvé avant le départ des femmes et des enfants pour le sud. Hara était apparue sur le seuil de la chambre intérieure, les ailes noires de ses cheveux maintenues en arrière par les anneaux d'eau passés dans une chaîne. Elle avait écarté les draperies et lui avait dit que Shiny venait de tuer quelqu'un. « Cela est vraiment arrivé, » se dit Paul. « Cela n'est pas né du temps. Cela ne peut être changé. » Il se souvenait de s'être rué hors de la chambre pour découvrir Shiny à la clarté jaune des brilleurs du corridor, drapée dans une robe bleue dont le capuchon était rejeté en arrière. Son visage d'elfe était tendu et elle glissait son Christ dans son étui. Un groupe s'éloignait en hâte avec un fardeau. Il se souvint d'avoir songé « Lorsqu'ils emportent un corps, on le sait toujours. » Comme Shiny lui faisait face, les anneaux d'eau tintèrent à son cou. À l'intérieur du siège, elle les portait librement. « Shiny, que se passe-t-il ? » ?»« Je viens d'expédier celui qui voulait te défier en combat singulier, Ouzoul. » »« Tu l'as tué, toi ?»«
Oui. Mais peut-être aurais-je dû le laisser à Hara. »
Il se souvint du contentement qui était apparu sur les visages autour d'eux à ces paroles. Hara elle-même avait ri. « Mais c'est moi qu'il était venu défier. »«
Tu m'as enseigné l'art étrange, Ouzoul. »
Certainement. Mais tu ne devrais pas...
Je suis né dans le désert, Ozul. Je sais me servir d'un kris.
Il réprima sa colère et s'efforça de parler calmement.
Tout ceci est sans doute vrai, Shaini, mais...
Je ne suis plus une enfant qui chasse les scorpions dans le siège, à la clarté d'un brayeur, Ozul. Je ne m'amuse plus.
Le regard de Paul était fixé sur elle. Il était fasciné soudain par l'étonnante férocité qu'il décelait derrière son attitude désinvolte.
Il ne méritait pas de te défier, Ozul,
dit-elle.
Je n'aurais pas dérangé ta méditation pour lui.
Elle s'approcha, le regarda à la dérobée et sa voix devint un murmure.
Et puis, mon bien-aimé, lorsque l'on saura que l'on peut se retrouver face à moi et connaître une mort honteuse par la main de la femme de Mouad Dib, il y aura moins de candidats.
Oui, se dit Paul. Cela est certainement arrivé.
C'est le passé réel. Et il est vrai que le nombre de ceux qui voulaient défier la lame nouvelle de Mouad Dib a décru de façon remarquable. Quelque part, dans un monde qui n'appartenait pas aux rêves, il y eut comme un mouvement, le cri d'un oiseau de nuit.
« Je rêve, » se dit Paul. « C'est ce repas d'épices. »
Pourtant, il éprouvait encore une impression d'abandon. Il se demanda s'il était possible que son esprit roux ait basculé dans ce monde auquel, selon les Fremen, il appartenait vraiment. L'Alam al-Mithal, le monde des similitudes, le domaine métaphysique où toutes les limitations physiques étaient annihilées. Et à la pensée d'un tel monde, il éprouvait de la peur, car la disparition de toute limitation signifiait la disparition de tout point de référence. Dans ce paysage de mythes, il ne pouvait s'orienter et dire « Je suis parce que je suis ici ».
Sa mère lui avait déclaré une fois « Certains dans le peuple sont divisés par la manière dont ils pensent à toi. »
« Il faut que je m'éveille », se dit-il.
Car ces paroles, sa mère les avait bien prononcées. Sa mère, Dame Jessica, qui était maintenant révérende mère des Fremen. Ces paroles étaient passées dans la réalité. Jessica redoutait les liens religieux qui existaient entre les Fremen et lui, il le savait. Elle n'aimait pas entendre les gens des Sietch et des Sion le nommer « lui ». Elle ne cessait de questionner les tribus à cet égard, d'envoyer au loin ses espions et de réfléchir mélancoliquement sur leurs rapports. Elle lui avait rappelé un proverbe Béné Gesserit. Lorsque la religion et la politique voyagent dans le même chariot, les voyageurs pensent que rien ne peut les arrêter. Ils vont de plus en plus vite. Ils oublient alors qu'un précipice se révèle toujours trop tard. Paul se rappelait s'être assis dans les appartements de sa mère, dans la chambre intérieure enclose de lourdes tentures, dont les broderies étaient inspirées de thèmes de la mythologie Fremen. Il s'était assis là et l'avait écoutée, remarquant la façon dont elle observait sans cesse, même lorsqu'elle baissait les yeux. Il y avait des plis nouveaux au coin de sa bouche, mais sa chevelure était toujours du même bronze poli. Ses grands yeux verts, pourtant, étaient voilés par la brume bleue de l'épice. « Les Fremen ont une religion simple, pratique », avait-il dit.
« Rien n'est simple à propos de la religion », lui avait-elle rétorqué.
Mais Paul, voyant l'avenir lourd de nuées qui pesait sur eux, s'était senti submergé par la colère. Il n'avait pu que dire « La religion regroupe nos forces. C'est notre mystique. »
« Tu cultives délibérément cette atmosphère. Tu ne cesses d'endoctriner. »
« C'est ce que vous m'avez appris. »
Mais ce jour-là, elle avait été pleine de reproches et d'arguments. C'était le jour où le petit Leto devait être circoncis. Paul avait compris certaines des raisons de la mauvaise humeur de sa mère. Elle n'avait jamais accepté sa liaison, son mariage de jeunesse avec Shaini. Mais Shaini avait donné le jour à un fils Atreide et Jessica n'avait pu rejeter l'enfant et la mère. Sous son regard, elle avait réagi et demandé
« Tu penses que je suis une mère anormale ?»«
Non, certainement. Je vois bien la façon dont tu m'observes quand je suis avec ta sœur. Tu ne comprends pas ce qu'il en est à son propos. Je sais pourquoi elle est différente. Elle n'était pas encore née, mais faisait partie de vous quand vous avez transformé l'eau de vie. Elle, tu ne sais rien de cela. Et Paul, soudain incapable d'exprimer la connaissance qu'il avait extraite du temps, n'avait pu que dire « Je ne pense pas que vous soyez anormal. » Elle avait vu alors son désarroi et dit « Mon fils, il faut que tu saches. Oui, j'aime ta Shiny. Je l'accepte. » Cela était réel, se dit-il. Ce n'était pas là une vision imparfaite qui serait modifiée par les tourbillons issus de la source même du temps. Cette assurance lui donna une prise nouvelle sur le monde. Des parcelles de réalité apparurent dans son rêve. Il sut brusquement qu'il se trouvait dans un Hierek, un camp du désert. Shiny avait choisi le sable farine pour dresser leur tente d'Istille, à cause de sa douceur. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, Shiny n'était pas loin. Shiny, sa Sihaya, douce comme le printemps du désert. Shiny qui était revenu des palmeraies du sud lointain. À présent, il se souvenait d'un champ de sable qu'elle avait choisi à l'heure du sommeil. « Ô mon âme, dédaigne le paradis cette nuit, et par Shai Hulud je te promets que tu t'en iras là-bas, soumis à mon amour. » Et puis elle avait chanté la chanson de marche, qui sur le sable unissait les amoureux, et dont le rythme était comme le frottement des dunes sous leurs pas. Souffle sur moi tes silences, et je m'approche. Chuchote-moi tes désirs et tes souffrances. Chante pour moi tes rêves, et je te siffle mes pensées. Murmure dans ton sommeil, et je délire dans mes jours. Dans une autre tente, quelqu'un avait tiré quelques accords d'une balisette. Il avait alors pensé à Gurney Halleck. Il avait entrevu son visage dans un groupe de contrebandiers, mais Gurney, lui, ne l'avait pas vu, ou n'avait pas voulu le voir, de peur de remettre les Harkonnen sur la piste du fils du duc qu'ils avaient assassiné. Mais le style de celui qui jouait cette nuit-là, le jeu délié des doigts sur la balisette, éveillait un nom dans la mémoire de Paul. Celui de Hrat le Sauteur, capitaine des Fedaikin, les commandos de la mort qui veillaient sur Muad Dib. Nous sommes dans le désert, se souvint-il. Dans l'ergue centrale, au-delà des patrouilles Harkonnen. Je suis ici pour marcher dans le sable, attirer le faiseur et réussir à le monter afin de prouver que je suis totalement Fremen. Maintenant, il sentait à sa ceinture le kris et le pistolet Mola. Et tout autour de lui, il percevait le silence. C'était ce silence particulier qui précédait le matin, alors que les oiseaux nocturnes avaient disparu et que les créatures du jour n'avaient pas encore annoncé leur éveil à leur ennemi, le soleil. « Tu devras cheminer dans le sable à la lumière du jour, » avait dit Stilgar, « afin que Shai Hulud te voie et qu'il sache que tu n'as pas peur. Aussi nous changerons l'emploi du temps et nous dormirons à la nuit. » Lentement, Paul s'assit dans l'ombre de la tente. Ses gestes étaient doux, mais Shiny l'entendit pourtant.
« Il ne fait pas encore complètement jour, mon bien-aimé, »
dit-elle, ombre dans l'ombre. « Sihaya, » fit-il, et il y avait la trace d'un rire dans sa voix.
« Tu m'appelles ton printemps du désert, mais aujourd'hui je suis là pour te harceler. Aujourd'hui, je suis la Sayadina qui veille à ce que l'on obéisse au rite. »
Il entreprit d'ajuster son distille. Une fois, dit-il, tu m'as cité les paroles du Kitab Alibar. La femme est ton champ, alors va dans ce champ et cultive-le.
Je suis la mère de ton premier enfant, dit-elle.
Il la devinait dans la pénombre grise, imitant ses gestes, ajustant son distille pour le désert.
Tu devrais te reposer aussi longtemps que possible, lui dit-elle.
Il sentit l'amour dans sa voix et répondit en plaisantant, La Sayadina qui veille ne doit pas mettre en garde le candidat. Elle se glissa à ses côtés et posa la main sur sa joue.
« Aujourd'hui, je suis celle qui veille, mais je suis aussi la femme. »«
Tu aurais dû laisser cette tâche à une autre, » dit-il.
« Il est aussi dur d'attendre. Je préfère être à tes côtés. »
Il déposa un baiser sur sa main avant d'ajuster le masque facial de son distille. Puis il décella la tente. L'air avait cette fraîcheur légèrement humide qui, avec l'aube, laisserait des traces de rosée sur le désert. Il apportait le parfum de la masse d'épices en gestation qu'ils avaient détectée au nord-est et qui indiquait la présence d'un faiseur. Paul rampa hors du sphincter d'entrée, se redressa et, debout dans le sable, étira ses muscles, chassant le sommeil. Une pâle luminescence verte apparaissait à l'horizon d'est. Dans la pénombre, les tentes étaient comme autant de petites dunes. Sur sa gauche, Paul décela un mouvement. La garde. Les hommes avaient dû le voir. Il savait quel péril il allait affronter aujourd'hui. Chaque Fremen l'avait affronté. Il lui fallait se préparer et il lui accordait encore ce moment de solitude. « Ce doit être fait aujourd'hui, » se dit-il. Il songea à la puissance qu'il avait réussi à opposer au pogrom, aux vieux hommes qui, maintenant, lui amenaient leur fils afin qu'il leur enseigne l'art étrange de la bataille, à ces vieux hommes qui l'écoutaient lors des conseils, qui suivaient ses plans et revenaient vers lui avec le plus grand compliment que pouvait faire un Fremen. « Ton plan a réussi, Muad Dib. » Pourtant, le plus petit, le plus médiocre des guerriers Fremen était capable d'une chose qu'il n'avait encore jamais réalisée. Et il savait que cette différence pesait sur son rôle de chef. Il n'avait pas chevauché le faiseur. Bien sûr, avec les autres, il avait participé à des raids, mais il n'avait pas encore fait son premier voyage seul. Et jusqu'à ce qu'il l'ait fait, son univers demeurerait limité par les capacités des autres. Il n'était pas de véritable Fremen qui pût permettre cela. Jusqu'à son premier voyage, les vastes territoires du sud, à quelques 20 marteleurs au-delà de l'ergue, lui étaient interdits, à moins qu'il ne voyage dans un palanquin, comme une révérende mère ou un malade. Il se souvint alors de la lutte qu'il avait menée tout au long de la nuit avec sa perception intérieure, et il vit là un parallèle étrange. S'il maîtrisait le faiseur, son pouvoir en serait affermi. S'il maîtrisait sa vision intérieure, il posséderait alors un moyen de contrôle sur lui-même. Mais au-delà, il y avait la zone brumeuse, la grande turbulence qui semblait s'être emparée de l'univers tout entier.